problem.
Dix heures à Paris, 9 heures en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, les attentes des Ukrainiens après les discussions indirectes qui se tiennent en ce moment à Riyad. Hier, les Américains ont donc négocié avec une délégation ukrainienne. Place à une délégation russe aujourd'hui, on fera le point dans ce journal. En Équateur, débat tendu hier à 3 semaines de la présidentielle. Le président candidat Daniel Noboa et Luisa Gonzalez se sont affrontés à la télévision. Récit à suivre. Au Mali, un défenseur des droits humains accuse les services de renseignement de nombreuses arrestations extrajudiciaires. Et puis Manu Chao, à Manille, l'artiste franco-espagnol s'est produit il y a quelques jours dans l'une des grandes salles de la capitale, mais il a aussi tenu à jouer gratuitement dans les rues de Manille. Reportage à la fin de ce journal. La Russie et les États-Unis ont donc débuté ce matin leur pourparlers en Arabie Saoudite concernant la guerre en Ukraine. En toile de fond, la volonté de Donald Trump de parvenir à un cessez-le-feu après 3 ans de guerre. Hier, c'est une délégation ukrainienne qui était à Riyad. Les discussions ont été productives, a fait savoir dans la soirée le ministre ukrainien de la Défense à Kiev, Emmanuel Chaz.
En Ukraine, du côté du gouvernement, on se veut optimiste. Volodymyr Zelensky affirme que les échanges à Riyad et le travail des délégations vers une paix juste pour l'Ukraine se poursuivent. Du côté de la population, il y a beaucoup de scepticisme quant à la bonne volonté russe de s'engager dans un processus de paix, même si la perspective d'un cessez-le-feu après 11 ans de guerre et 3 ans de guerre totale est bienvenue. Sur le terrain, il n'y a encore aucun signe de velléité d'apaisement, moins encore de paix de la part de la Russie et aucune trace non plus d'un cessez-le-feu au moins partiel annoncé par les États-Unis le 11 mars. Ici, tous les jours, les attaques russes continuent sur le front et par voie aérienne sur l'ensemble du territoire ukrainien. Hier, dans la région de Donetsk, 3 personnes sont mortes dans des attaques de drones. À Kiev, la nuit dernière, une enfant de 5 ans et son père ainsi qu'une femme de 80 ans ont été tués lors d'une attaque de drones. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés à augmenter la pression contre la Russie. Il affirme dans son allocution quotidienne que quelles que soient les discussions tenues avec les partenaires de l'Ukraine, Vladimir Poutine devrait être forcé à mettre fin à ses frappes et que celui qui a commencé la guerre devrait aussi être celui qui y met fin. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et sur le terrain, les frappes russes en Ukraine se sont poursuivies cette nuit. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 57 drones sur les 99 lancés par la Russie. Elle a ajouté que 36 drones russes n'avaient pas atteint leur cible. En Israël, un homme a ouvert le feu ce matin à un carrefour à une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Haïfa. Une personne a été blessée, une autre tuée. L'assaillant, lui, a été neutralisé, selon les termes employés par la police israélienne. Le gouvernement israélien qui continue d'ordonner des frappes sur Gaza. Hier, un bombardement a touché l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de l'enclave. Un membre du bureau politique du Hamas a été tué. Il était soigné dans la structure. La frappe a également tué un adolescent de 16 ans selon le groupe islamiste palestinien. Peu de propositions et beaucoup d'invectives en Équateur. Le président candidat Daniel Noboa du parti ADN et Luisa Gonzalez de la Révolution citoyenne de l'ancien président Rafael Correa se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé particulièrement tendu, débat qui intervient à 3 semaines tout juste de la présidentielle. À Quito, Éric Sanson.
Dès le début du débat, Noboa et Gonzalez se sont accusés de mentir et de supposer participation de leurs proches et de leurs partisans dans des affaires de drogue et de corruption. Actuellement en tête dans les sondages, Luisa Gonzalez a attaqué le bilan du président sortant quant à la lutte contre la délinquance.
Noboa, non, ne mentez pas. Nous sommes toujours le pays le plus violent de la région. Et le début de l'année 2025 est le plus violent de l'histoire de l'Équateur. Un Équatorien meurt chaque heure. Et je vous le demande, de toutes vos promesses, qu'avez-vous respecté ?
Rappelant les résultats obtenus depuis un an, Daniel Noboa a promis d'accentuer les efforts des autorités contre les cartels de la drogue.
En 4 ans, que devons-nous faire ? D'abord, réinstaller la base militaire américaine de Manta que vous avez éliminée pour pouvoir contrôler notre ciel et le trafic de drogue dans le pays. Ce trafic est international et nous devons demander l'aide des États-Unis, du Canada, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, mais pas de pays comme le Venezuela ou l'Iran si nous voulons nous en sortir.
Les deux candidats se sont accusés de vouloir dédollariser le pays. Luisa Gonzalez a indiqué qu'elle reconnaîtrait le régime vénézuélien de Nicolas Maduro, Mais reste à voir si ce débat a convaincu des indécis qui seront la clé de la victoire le 13 avril prochain. Éric Sanson, Quito. RFI.
199 migrants expulsés des États-Unis arrivés au Venezuela ce matin. L'avion en provenance du Honduras transportait à son bord 199 migrants expulsés donc des États-Unis. Une annonce qui marque la reprise donc des vols d'expulsion entre les deux pays. Vol qui avait été interrompu en février. Donald Trump était alors mécontent du rythme de ces rapatriements. Il avait révoqué dans la foulée la licence accordée par Joe Biden au groupe pétrolier américain Chevron pour travailler au Venezuela. Malgré les sanctions prises contre ce pays. À l'écoute de Radio France Internationale, 10h passées de 5 minutes au Mali à présent, un défenseur des droits humains accuse les services de renseignement de nombreuses arrestations extrajudiciaires. Souleymane Camara, président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali, demande la judiciarisation de la branche des services de renseignement qui opère enlèvement et arrestations extrajudiciaires. Correspondance régionale avec Serge Daniel.
Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali se dit inquiet face aux arrestations extrajudiciaires, selon lui de plus en plus nombreuses dans le pays. Souleymane Camara.
Nous soutenons qu'un climat de terreur est en train de s'installer au Mali. Des hommes circulant dans des véhicules sans immatriculation effectuent des arrestations fréquentes, sans mandat judiciaire, et conduisent les personnes enlevées dans des destinations inconnues.
Il pointe du doigt les services de renseignement du Mali, l'Agence nationale de la sécurité d'État.
C'est l'œuvre de la sécurité d'État du Mali, puisque les personnes victimes d'enlèvements puis relâchées l'ont toujours affirmé.
Différentes sources confirment des cas avérés de citoyens détenus sans jugement sur une longue durée dans les locaux des services de renseignement. Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali réclame un changement dans le fonctionnement de la structure étatique qui a déjà notamment arrêté journalistes, activistes et hommes politiques. Souleymane Camara.
Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de judiciariser ces services de renseignement du Mali pour éviter les abus et les fréquentes violations des droits de l'homme.
Afin de bien faire comprendre sa démarche, Souleymane Camara explique comme d'autres, j'aime mon pays, je ne demande pas la dissolution de la sécurité d'État, mais sa réforme. Serge Daniel, Dakar, RFI.
L'actualité en France à présent, la procureure de la République d'Orléans doit donner aujourd'hui des détails sur le profil du suspect arrêté samedi soir après l'agression du rabbin d'Orléans alors qu'il sortait de sa synagogue. Le suspect est âgé de 16 ans. L'agression a suscité une vague de condamnations et une manifestation de soutien avait lieu hier soir à Paris. L'audience débute à 13h30 au tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Gérard Depardieu, jugé pour agression sexuelle présumée sur deux femmes lors d'un tournage. Monstre sacré du cinéma français, l'acteur âgé de 76 ans fait l'objet de multiples accusations de violences sexuelles. Il est notamment mis en examen pour viol dans une autre affaire. Direction à présent les Philippines, où Manu Chao est pour la première fois en tournée. L'artiste franco-espagnol s'est produit il y a quelques jours dans l'une des grandes salles de la capitale, mais il a aussi tenu à jouer gratuitement dans les rues de Manille. Notre correspondante Nemo Lecoq-James a pu écouter un concert improvisé dans un quartier défavorisé de la capitale. Son reportage.
Ici, il n'y a pas de scène, pas de micro, mais le public est déchaîné. Autour de Manu Chao, des dizaines d'enfants dansent, chantent et tapent dans leurs mains. Rocco a 10 ans, il habite dans le quartier de Terreros. C'est la première fois qu'il voit un concert ici. Il vient d'aller parler à l'artiste.
Je lui ai dit que c'était un très bon chanteur. Il joue super bien de la guitare.
Le concert se déroule sur le terrain de basket du quartier au milieu de dizaines de tentes. La semaine dernière, près de 200 habitants des alentours ont été relogés ici après un grave incendie. Pour Yona, c'est une raison de plus d'apprécier ce moment unique.
Je suis très heureuse. Ils ont vécu un grand stress à cause de l'incendie. Et là, regardez les gens et surtout les enfants, c'est incroyable de les regarder.
Depuis plus de 25 ans, Manu Chao se produit partout à travers le monde. Il chante en espagnol, en français, en portugais et en anglais. Et surtout, il met un point d'honneur à rendre sa musique accessible à tous. Augusto Chavez est l'organisateur de la tournée.
L'initiative, c'était de visiter au moins un quartier. Comme ça, les gens peuvent rencontrer et écouter Manu plutôt que de payer un billet pour un concert. Parce que Manu prête vraiment attention à ce genre de choses.
Après le concert improvisé de Terreros, direction El Nido, au sud de l'archipel, Manu Chao s'y produira le week-end prochain au profit des pangolins, une espèce menacée aux Philippines. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Manille, où il est 17h10, un peu plus tôt ici à Paris dans nos studios. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Tout de suite, c'est Priorité Santé et c'est avec vous, Caroline Paré.
Un grand merci, Jeanne Bartoli.